l'étude, enfin la présentation de certaines prédications de personnages que vous avez l'habitude de voir écrits sur des méditations, sur des lectures bibliques, sur des psaumes, enfin sur des chants, des choses comme ça. Et je suis tombé sur Aidan William Tozer, c'est un Américain, qui a vécu au siècle dernier, quoi, donc presque contemporain, enfin de certains de chez nous. Il est mort en 63, je crois. Et donc vous le connaissez au travers de ses écrits. Et c'est un homme assez extraordinaire au niveau de la prière. Il a vécu il est né en 1897, mort en 1963, et on l'appelait le prophète du XXe siècle. Donc c'est pas un titre, disons, des moindres. C'est vraiment appelé le prophète du XXe siècle. Et il est né en Virginie, à l'est des États-Unis. Il a exercé à Chicago pendant 31 ans en tant que pasteur titulaire de la Baptist Alliance de Chicago. Et il était éditeur d'un journal, c'est pour ça qu'il a beaucoup écrit. Et il avait une capacité de dire des choses avec très peu de mots, et des mots très concis. Donc on peut vraiment... ces écrits sont encore vrais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit vraiment l'actualité de ces écrits. C'est un homme de prière, comme je vous le disais. Je vais peut-être vous lire quelque chose le concernant. Dans la prière, Alexandre Aidan Tozer se coupait de tout et de tous pour se concentrer sur Dieu. Ce sont ses mentors qui lui enseignaient cela et lui montraient comment pratiquer la présence quotidienne de Dieu. Il apprit bien sa leçon. La prière pour Tozer était inextricablement liée à l'adoration. Adorer, disait Tozer dans une longue phrase, sans comparaison possible. Je vous lis cette phrase. C'est de sentir dans son cœur et d'exprimer d'une certaine façon appropriée un humble mais merveilleux sentiment de crainte, rempli d'admiration et d'émerveillement, plein d'étonnement et d'amour envahissant dans la présence de ce mystère, remontant à la lointaine antiquité de ces majestés que les philosophes appellent la cause première, mais que nous appelons notre Père céleste. Voyez-vous, cette phrase décrit bien cette communion que Tozer recherchait, et c'est ce qui lui permettait de rester dans la prière autant de temps. L'adoration était l'impulsion sous-jacente à tout ce qu'il était, tout ce qu'il faisait. Elle contrôlait tous les aspects de sa vie et de son ministère. Un labeur qui ne jaillit pas de l'adoration, vertissait-il et futile, et ne peut être que du bois, que du foin, que de la paille, au jour où sera éprouvée l'œuvre de chacun. S'insurgeant contre les programmes agités qui empêchaient ses collègues dans le ministère et ses amis chrétiens de vivre la vraie adoration, Tozer écrivait « Je suis convaincu que la pénurie des grands saints en ces temps actuels, même parmi ceux qui croient vraiment en Jésus-Christ, est due au moins en partie à notre réticence à consacrer suffisamment de temps à cultiver la connaissance de Dieu. Nos activités religieuses devraient être arrangées de telle façon qu'elles nous laissent tout le temps nécessaire pour cultiver les fruits de la solitude et du silence. » Tozer était un ardent amoureux d'hymnes et avait dans sa bibliothèque une collection d'hymnes anciens. Souvent, il se rendait en rendez-vous, il méditait sur un des vieux hymnes. Vous connaissez les hymnes? Vous avez des hymnes chez vous? Non? Vous avez que les gems? Non? Vous avez des hymnes? Oui? Oui. Jeunes en mission, enfin, ils sont très bien, mais ils sont assez pauvres. en théologie. Enfin, souvent, c'est des chants qu'on rechante. Bon, bah, c'est une façon nouvelle de s'exprimer. Mais les vieux hymnes, si vous les prenez, ils ont un contenu très profond. Ils ont beaucoup de strophes. Hein. Bon, c'est pour ça que c'est un peu ennuyeux maintenant de les chanter. Mais ils sont édifiants pour la foi, parce qu'ils ont été écrits sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, n'hésitez pas à reprendre des hymnes. Et même si vous ne les chantez pas, de les lire, hein, parce qu'ils font beaucoup de bien et ça vous permet aussi de vivre dans ce que nos anciens, nos aînés ont vécu dans la présence de Dieu. Et Tozer a écrit un certain nombre d'hymnes en particulier. Voilà, j'ai encore d'autres choses à lire, mais je réserve ça pour une prochaine fois. C'est donc un homme de prière, hein, et d'adoration. Et c'est aussi le thème de cette année, hein, sur l'adoration. Donc c'est un personnage qui nous intéresse particulièrement. J'aimerais vous donner ce message qu'il a donné lui-même pour montrer un peu la manière dont il s'exprimait et qui est encore actuel aujourd'hui sur le déclin de l'autorité du Christ dans nos églises. Christ, qu'est-ce qu'il devrait être dans nos églises ? Pardon ? Le chef. Alors, Claire, tu t'appuies là-dessus. Sur quel verset tu t'appuies pour dire ça ? Parce qu'il faut que toutes nos déclarations soient appuyées par la parole. Éphésiens, oui ? Non, pas 5. Non. De toute façon, si vous ne voulez pas trop vous tromper, je vous donne une petite astuce. Concernant tout ce qui est l'autorité de l'Église, c'est Éphésiens. Donc, si vous citez Éphésiens, vous avez déjà des chances d'avoir gagné chaque fois que ça concerne l'autorité dans l'Église, enfin, tout ce qui est le fondement de l'Église. Pour ce qui est le fondement de la suprématie de Christ, c'est Colossiens. Donc, vous citez Colossiens, vous voyez, donc, vous avez déjà des repères faciles, Colossiens, Éphésiens. Alors, Éphésiens 1, chapitre 1er, verset 10. C'est tout ce chapitre 1er, Paul, il exprime la souveraineté de Christ dans l'Église, sur l'Église et dans le plan de Dieu. Et au verset 10, il dit, au verset 9, pour comprendre la phrase, « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. » Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. C'est quelque chose, je pense, qu'on ne peut pas comprendre. Enfin, c'est un verset qui donne une déclaration qui nous dépasse. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Les plus grands physiciens, vous savez que les plus grands savants, ils croient en Dieu. Hein. C'est souvent les petits qui ont très peu de connaissances qui se gonflent d'orgueil, qui ne croient pas en Dieu. Je ne vais pas dire qu'ils sont chrétiens, mais ils croient en Dieu. Hein, parce qu'ils voient dans ce qu'ils découvrent un dessein, un plan, quelque chose qui les dépasse. Hein. Et Samuel, qui a fait une des meilleures écoles de physique en France, disait que les profs, à la fin, donc actuellement, ils commencent à enseigner que dans la physique, il y a le spirituel qui se mélange avec le physique, parce qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Il y a des manifestations qui se produisent sur le plan physique, le plan moléculaire, etc., qu'ils n'arrivent plus à comprendre par la physique traditionnelle et qui touchent au domaine spirituel. Tout simplement parce que Dieu est un. Voyez-vous, quand on dit Dieu est un. Un, ça veut dire qu'il n'est pas divisé. Dieu n'est pas divisé en lui-même. Nous, dans la philosophie grecque et dans l'histoire de la science depuis le XVIIe siècle, on a découpé les sciences, la chimie, la physique, tout ça, pour que chaque discipline, on puisse l'étudier. Mais c'est une technique de compréhension parce qu'on ne pourrait pas tout apprendre. Aujourd'hui, il n'y a plus d'homme universel, comme au temps de Léonard de Vinci, qui était un des derniers à pouvoir maîtriser toutes les techniques, parce que c'est trop compliqué. Mais c'est simplement pour la facilité d'analyse qu'on fait ça. Mais dans la réalité, rien n'est divisé, tout est un, tout se touche. La physique, la chimie, tout ça, c'est la création de Dieu. Et Dieu est un. Et à cause de cette unité, eh bien, le spirituel, il englobe le matériel, il englobe le visible, l'invisible, tout. Et là, ce verset-là, il exprime. Il dit, le plan de Dieu, c'était de réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire l'unité est en lui. Et nous lisons à la Sainte Cène, avec Philippiens, que tout est un en Christ, voyez-vous. Donc c'est quelque chose qui nous dépasse, mais qui est extraordinaire à contempler et à nous laisser imprégner par cette unité en Christ. Donc il n'est pas seulement le chef de l'Église, mais aussi de tout ce qui existe, de toute la création. Et au verset, donc, pour ce qui concerne le chef, c'est le chef de tout ce que Dieu a créé. Et au verset 22, il dit « Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. » Voyez-vous ? Donc l'Église aussi a un chef, c'est Christ. Amen. Donc ça, c'est une affirmation qui nous permet de vraiment savoir que le seul chef dans l'Église, c'est Christ. Tous les autres, nous sommes des serviteurs. Le pasteur est un serviteur, les diacres sont des serviteurs, avec des ministères particuliers qui sont donnés par Dieu, mais nous ne sommes que des serviteurs, il n'y a pas de chef. Ceux qui pensent qu'il y a des chefs dans l'Église ou ceux qui le vivent comme ça, eh bien, c'est une grave erreur. Alors, dans le monde, il y a des chefs, mais dans l'Église, il ne doit pas y avoir de chef. Ça n'existe pas. Il y a des ministères, il y a des serviteurs, mais pas de chef. Dans Jean, chapitre 5, verset 27, Jean, chapitre 5, verset 27, il y a une autre vérité qui est importante. C'est que, au verset 26, il est dit « En effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Voyez-vous, la vie, c'est quelque chose aussi que les hommes, physiciens, chimistes et tout ça, biologistes, ne peuvent pas comprendre, parce qu'ils peuvent organiser la vie, ils peuvent modifier la vie, mais ils ne peuvent pas créer la vie. La vie ne peut pas être créée. Elle vient uniquement de Dieu. Elle est spirituelle. Et là, il est dit que comme le Père a la vie en lui-même, il a permis au Fils d'avoir la vie. Donc si nous touchons au Fils, si nous recevons le Fils, nous avons la vie. Et c'est pourquoi nous avons besoin de nous imprégner, de nous approcher de Jésus, parce que la vie est en lui. Et il a dit qu'il lui a donné le pouvoir, verset 27, d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Donc le jugement, là aussi, c'est une déclaration ferme et précise. Le jugement ne doit pas être exercé par les hommes, c'est Christ qui exerce le jugement. Et c'est pourquoi nous devons nous préserver de jugement, de critique, de toutes ces choses qui ne sont réservées qu'à Christ qui est le chef. Et comme il est le chef des hommes, il est le Fils de l'homme, il est devenu un homme, c'est lui seul qui peut juger parce que c'est le seul juste. Nous ne sommes pas justes, nous sommes justes en Christ. Mais c'est Christ qui est juste, et c'est Christ qui peut exercer la justice. Donc vous voyez, le pouvoir d'exercer le jugement, il est donné à Christ. Donc il est l'autorité. L'autorité sur l'Église, l'autorité sur la justice, l'autorité sur tout l'univers. C'était une introduction pour que vous compreniez bien le message de Tozer, Hayden William Tozer. Alors, voilà ce qu'il écrit. Donc là, je vais vous lire en partie son message. Permettez-moi d'exprimer la cause de mon fardeau. La voici. Aujourd'hui, Jésus-Christ n'a pratiquement plus aucune autorité au milieu des groupes qui se réclament de son nom. Il écrit ça dans les années 50, 1950-1960. Donc, qu'est-ce qu'il écrirait aujourd'hui ? Mais bon. Je ne parle pas ici des catholiques romains, ni des églises chrétiennes libérales, ni de diverses sectes qui se disent chrétiennes. Je veux parler clairement des églises protestantes en général, dans lesquelles j'inclus celles qui proclament le plus haut, être dans la lignée spirituelle de Jésus-Christ, c'est-à-dire les églises évangéliques. Jésus-Christ, homme, après sa résurrection, fut déclaré Seigneur et Christ par Dieu le Père, qu'il a investi d'une autorité absolue sur l'Église, qui est son corps. Il s'agit d'une doctrine fondamentale du Nouveau Testament. Toute autorité lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Au temps marqué, Christ exercera pleinement cette autorité. Mais au cours de la période actuelle de l'histoire, il permet que son autorité soit contestée ou ignorée. Actuellement, son autorité est contestée par le monde et elle est ignorée par l'Église. La position actuelle de Christ dans les églises de l'Évangile peut être comparée à celle d'un roi dans une monarchie constitutionnelle à pouvoir limité. Quel est l'exemple qui vous vient à la tête ?
L'Angleterre.
Mais il y en a d'autres. Le roi, parfois dépersonnalisé par l'emploi de l'expression « la couronne », entre guillemets, n'est plus, dans un tel pays, qu'un point de ralliement, un symbole agréable d'unité et de loyauté, tout comme un drapeau ou un hymne national. On le loue, on le fête, on l'entretient, mais il n'a que peu d'autorité. En principe, il est à la tête du pays, mais en cas de crise, c'est quelqu'un d'autre qui prend des décisions importantes. À certaines occasions formelles, il apparaît en public, revêtu de ses ornements royaux pour délivrer le discours, terne et creux, qui lui a été préparé par ceux qui gouvernent réellement le pays. Tout cela est sans doute un faux semblant qui ne fait de mal à personne et qui est le fruit d'une longue tradition. C'est très plaisant et personne n'a envie de le supprimer. Dans les églises évangéliques, Christ n'est actuellement guère plus qu'un symbole aimé de tous. Tous proclament la puissance du nom de Jésus. Tel est l'hymne national de l'Église, et la croix est son drapeau officiel. Mais dans les réunions hebdomadaires de l'Église, comme dans la conduite quotidienne de ses membres, ce n'est pas Christ qui prend les décisions, c'est quelqu'un d'autre. Dans certaines circonstances appropriées, on permet à Christ de dire « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, ou que votre cœur ne se trouble pas. » Mais quand son discours est terminé, quelqu'un reprend les rênes. Ce sont ceux qui disposent de l'autorité réelle, qui fixent les règles morales que doit suivre l'Église, ainsi que les objectifs et les méthodes employées pour les atteindre. Grâce à une longue et minutieuse organisation, il est à présent possible pour le plus jeune pasteur, sortant à peine de son école biblique, de disposer dans son Église de plus d'autorité que ne dispose Christ lui-même. Il est direct, hein ? Non seulement Christ ne dispose plus que d'une faible autorité, mais son influence décroît sans cesse. Je ne dirais pas qu'il n'y a plus aucune influence, mais qu'elle est faible et elle diminue de plus en plus. On peut comparer cela à l'influence d'Abraham Lincoln sur le peuple américain. Vous connaissez Abraham Lincoln ? C'est qui ? C'était qui ? C'est-à-dire des présidents des États-Unis. L'honnête Abraham Lincoln est toujours l'idole de notre pays. C'est un Américain qui parle. On voit partout l'image de son visage aimable et rugueux, tellement ordinaire qu'il en devient beau. Il est facile d'avoir les yeux embués de larmes quand on évoque sa mémoire. Les enfants grandissent en écoutant les récits de son amour, de son honnêteté, de son humilité. Mais dès que nous avons repris le contrôle de nos tendres émotions, qu'en reste-t-il ? Rien d'autre qu'un bon exemple qui, à mesure que le temps passe, devient de plus en plus irréel et exerce de moins en moins d'influence. N'importe quel scélérat, c'est lui qui le dit, est prêt à se draper dans le long manteau noir de Lincoln. À la froide lumière de la réalité politique des États-Unis, la référence constante faite à Lincoln par nos politiciens ressemble à une cynique plaisanterie. Les chrétiens n'ont pas complètement oublié la seigneurie de Jésus, mais elle a été reléguée au niveau d'un livre de cantiques. On se décharge ainsi confortablement de toute responsabilité, sous l'effet apaisant d'une agréable émotion religieuse. Ou alors, si l'on enseigne la seigneurie de Christ de manière théorique, elle n'est que rarement mise en pratique dans la vie de tous les jours. L'idée que Jésus-Christ, homme, puisse disposer d'une autorité absolue et définitive sur toute l'Église et sur chacun de ses membres, dans tous les détails de leur vie, cette idée n'est tout simplement plus acceptée comme vraie par les chrétiens évangéliques de base. Voici ce que nous faisons. Nous considérons que le christianisme de notre Église est identique à celui de Christ et de ses apôtres. On met les croyances, les pratiques, les principes, les activités de notre groupe sur le même plan que ceux des chrétiens du Nouveau Testament. Tout ce que notre groupe pense, dit ou fait est conforme aux Écritures. Cela va de soi. On part du principe que tout ce que notre Seigneur attend de nous, c'est de nous occuper des activités de notre groupe. Ce faisant, nous sommes censés obéir au commandement de Christ. Afin d'éviter la dure nécessité, soit de nous soumettre, soit de rejeter les claires instructions de notre Seigneur dans le Nouveau Testament, nous nous réfugions dans une interprétation libérale de ces instructions. La casuistique n'est pas réservée aux seuls théologiens de l'Église catholique romaine. Nous, chrétiens évangéliques, savons esquiver les exigences les plus dures de l'obéissance en ayant recours à des explications complexes et sophistiquées. Celles-ci sont parfaitement taillées pour satisfaire la chair. Elles excusent la désobéissance, elles consolent la chair et elles annulent l'efficacité des paroles de Christ. À la racine de tout cela, il y a le fait que l'on ne croit pas que Christ ait vraiment voulu dire ce qu'il a dit. En théorie, on accepte ces enseignements, mais après les avoir édulcorés par une interprétation appropriée. Pourtant, Christ est de plus en plus consulté par une foule de gens à problème et recherché par ceux qui aspirent à la paix de l'esprit. On le recommande hautement parce qu'il est une sorte de psychiatre spirituel, disposant de pouvoirs remarquables pour redresser les gens. Il est capable de les délivrer de leurs complexes de culpabilité, de les aider à éviter de sérieux traumatismes psychiques, en les aidant à s'adapter en douceur à la société et à leur propre ego. Bien entendu, cet étrange Christ n'a aucun rapport avec le Christ du Nouveau Testament. Le véritable Christ est aussi Seigneur, tandis que ce Christ accommodant n'est guère que le serviteur du peuple. J'aurais juste signalé au passage que nous, on avait même un ancien, dans le temps passé, qui nous disait que le pasteur est le serviteur du peuple. Donc c'est la même idée que... Christ doit servir le peuple, oui, au lieu que c'est le peuple qui doit servir Christ. Donc cette idée n'est pas du tout réservée aux églises américaines. Mais je suppose que je devrais offrir certaines preuves concrètes. Donc il va donner quelques preuves de ce qu'il dit. Mais permettant d'affirmer que Christ n'exerce plus qu'une faible autorité aujourd'hui sur les églises chrétiennes, à supposer qu'il exerce. Eh bien, permettez-moi de poser quelques questions dont les réponses fourniront ses preuves. Donc, il pose des questions. Première question. Quel conseil presbytéral, ou le conseil de l'Église, si vous voulez, consulte régulièrement les paroles du Seigneur quand il y a des décisions à prendre? Je demande à tous ceux qui lisent ces lignes et qui ont l'expérience d'un conseil d'Église d'essayer de se rappeler à quel moment l'un de ses membres, des membres de ce conseil, a fait référence à un passage de l'Écriture pour appuyer ses arguments. Ou quand le président de ce conseil a demandé aux frères de chercher à savoir quelles étaient les instructions du Seigneur concernant un problème particulier. En général, les conseils d'église commencent par une prière formelle ou un moment de prière. Après quoi, celui qui est la tête de l'église demeure respectueusement silencieux, tandis que le véritable conducteur prend la direction des opérations. Je demande à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec cette analyse de venir présenter leurs arguments pour les réfuter. Pour ma part, je serais très heureux de les entendre. Deuxième exemple. Quel comité d'école du dimanche consulte la parole de Dieu pour y trouver ses directives? Est-ce que ses membres ne partent pas invariablement du principe qu'ils savent déjà tout ce qu'ils sont censés faire et que leur seul problème est de déterminer les moyens efficaces pour parvenir à leur fin? Tout leur temps et toute leur attention sont absorbés par des plans, des règles, des activités, des nouvelles techniques méthodologiques. Ils prient avant les réunions afin de demander l'aide de Dieu pour réaliser leur plan. Apparemment, l'idée que le Seigneur pourrait leur donner certaines instructions ne les a jamais effleurées. Qui se rappelle avoir jamais vu le président de comité d'église mettre une Bible sur la table dans le but de s'en servir? ordre du jour, règle, compte rendu, oui. Mais quant au commandement sacré du Seigneur, c'est non. Il existe une dichotomie absolue entre le moment de prière et la séance de travail qui suit. Le premier n'a aucun rapport avec la seconde. Troisième preuve. Quel comité missionnaire ? Alors nous, on n'a pas de comité missionnaire, enfin, il est en train de se mettre en place. Quel comité missionnaire cherche réellement à être guidé par le Seigneur, par sa parole et par son esprit ? Tous ses membres sont persuadés qu'ils le font. Mais ce qu'ils font en réalité, c'est présumer le caractère scripturaire de leurs objectifs et demander l'aide du Seigneur pour qu'ils permettent d'atteindre ces objectifs. Ils sont prêts à prier toute la nuit pour que Dieu donne du succès à leurs entreprises. Mais tout ce qu'ils désirent, c'est que Christ les aide sans être leur Seigneur. On définit des moyens humains pour atteindre des objectifs que l'on considère a priori comme divins. On les met en forme pour en faire des politiques, mais ensuite le Seigneur n'a plus droit au vote. Alors ça, c'est un point sur lequel nous, on s'est bagarré pendant plusieurs années, dans l'Église en particulier, avec un groupe, bon, au départ, c'est un groupe de louanges, et qui voulait faire le propre groupe. C'était ça, le problème de fond. C'était satisfaire un objectif personnel et demander la bénédiction de Dieu. Donc, là aussi, c'est des choses qu'on a vécues tout à fait. Alors, questions. Donc, maintenant, il pose des questions. Et on va arriver après un temps de prière. Dans la conduite de nos cultes publics, qui est l'autorité, où est l'autorité de Christ ? En vérité, c'est rarement le Seigneur qui dirige une réunion aujourd'hui, et l'influence qu'il y exerce est très faible. Nous chantons pour lui, nous prêchons pour lui et sur lui, mais il ne faut pas qu'il interfère. Nous lui rendons un culte à notre façon, et cela doit être bon ainsi, parce que nous l'avons toujours fait de cette manière, tout comme les autres églises de notre mouvement. Quand un chrétien rencontre un problème moral, fait-il immédiatement référence au sermon sur la montagne ou à un autre passage du Nouveau Testament pour y trouver une réponse qui fera autorité ? Qui permet à la parole du Christ d'avoir le dernier mot en matière de dons, de contrôle des naissances, d'éducation de la famille, de conduite de vie personnelle, de dîme, de loisirs, d'achat, de vente et d'autres matières importantes ? Quel établissement d'enseignement public, qu'il s'agisse de la petite école biblique, ou de l'institut le plus réputé, ou de l'école chrétienne, pourrait continuer à subsister s'il faisait de Christ le seul Seigneur de toutes ses décisions ? Certains subsisteraient peut-être, du moins, je l'espère, mais je crois avoir raison en affirmant que la plupart de ces établissements, pour rester en activité, sont contraints d'adopter les procédures qui n'ont aucune justification dans la Bible et qui ont pourtant la prétention d'enseigner. Nous trouvons donc cette étrange anomalie. On ignore l'autorité de Christ afin de conserver en vie une école qui est censée enseigner, entre autres choses, cette même autorité de Christ. Alors, il se livre, dans cette dernière partie du message, il se livre à une réflexion sur les causes. Pourquoi ce déclin de l'autorité de notre Seigneur? Je n'en citerai que deux, dit-il. La première, c'est que c'est la puissance de l'habitude. Il y en a qui ont des habitudes. Alors, les habitudes, c'est important, hein, parce que moi, je prenais, vous voyez, toute ma vie, j'ai pris l'autoroute pour sortir au Mureaux. Et puis, des fois, quand je partais ailleurs, je sortais au Mureaux. Parce que l'habitude faisant que j'écoutais des cantiques ou je le priais, etc. Bon, donc c'était une habitude. Vous voyez, donc, mais bon, quand on a une habitude, on peut faire autre chose. Donc c'est les habitudes, c'est pas que mauvais. Hein. Mais une des causes du déclin de l'autorité du Christ dans les églises, c'est à cause de la puissance de l'habitude, des précédents, des traditions dans les groupes chrétiens les plus anciens. Ces choses, de même que la gravité, hein, quand on laisse tomber quelque chose, ça se fait toujours, de même que la gravité influence toutes les pratiques religieuses du groupe et exerce une pression régulière et constante dans une certaine direction. Bien entendu, cette direction est celle de la conformité au statu quo. Ce n'est pas Christ, mais c'est la coutume qui contrôle les situations. Une telle attitude a fini par passer dans d'autres groupes chrétiens, comme les églises du plein évangile, pentecôtistes ou fondamentalistes, et dans les nombreuses églises indépendantes et non dénominationnelles que l'on trouve dans tout le continent nord-américain. La deuxième cause, c'est le réveil de l'intellectualisme chez les chrétiens évangéliques. Si j'analyse correctement la situation, il s'agit non de la soif d'apprendre, mais surtout du désir d'acquérir la réputation d'être érudit. À cause de cela, des hommes de bonne volonté, qui devraient pourtant être plus avisés, sont poussés peu à peu à collaborer avec l'ennemi. Alors c'est un danger très français aussi, hein, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est De Gaulle. Hein. C'est peut-être pas une référence, mais bon, quand même un homme qui connaît les Français. J'aime la France, mais pas les Français. Bon, c'est étonnant, c'est que de sa part, mais... Et il disait que le Français, il aime savoir, mais il n'aime pas apprendre. Donc il sait, mais il n'aime pas apprendre. Et ça, c'est un danger, c'est de l'intellectualisme. C'est-à-dire qu'on va être érudit, on sait un tas de choses, quoi. Mais en fait, on ne sait rien. Mais du coup, ne l'acceptant pas, eh bien, on ne se met pas à apprendre et du coup, on n'apprend pas. Alors, pour terminer, la conclusion, il dit « Permettez-moi de m'expliquer. Notre foi évangélique, que je crois être la véritable foi de Christ et des apôtres, est aujourd'hui attaquée sur de nombreux fronts. Dans notre monde occidental, l'ennemi a abandonné le recours à la violence. Il ne vient plus nous attaquer avec l'épée et le fagot. Il vient avec le sourire et les mains chargées de présents. Il lève les yeux au ciel et jure que lui aussi possède la foi de nos pères. Mais son objectif réel est de détruire cette foi. Ou tout au moins de la modifier tellement qu'elle cessera d'être la chose surnaturelle qu'elle était auparavant. L'ennemi vient aujourd'hui au nom de la philosophie, de la psychologie, de l'anthropologie, hein, c'est tout ce qui touche à l'homme, hein, l'étude de l'homme. Elle nous exhorte avec des suaves raisonnements à repenser notre position historique, à être moins rigide, plus tolérant, plus ouvert dans notre compréhension des choses. Il sait parfaitement parler le jargon sacré des écoles et beaucoup de nos chrétiens évangéliques, imparfaitement éduqués, se pressent de l'aduler. Il couvre de diplômes académiques les fils des prophètes qui se bousculent à ses pieds, tel Rockefeller qui avait l'habitude de jeter des piécettes aux enfants des paysans. Les chrétiens évangéliques, qui avec quelques raisons pouvaient autrefois être accusés de manquer de réelle formation biblique, s'accrochent aujourd'hui à des symboles de statut social, les yeux brillants. Et quand ils les décrochent, ils peuvent à peine croire qu'ils y sont parvenus. Ils se promènent à la ronde, remplis d'une sorte d'incrédulité extatique, comme le ferait le chanteur solo d'une chorale de paroisse qui serait invité à chanter à la Scala. Pas tendre. Hein. Pour tout vrai chrétien, le critère suprême de la valeur ultime et de l'orthodoxie de tout ce qui touche à la foi et à la religion doit être à la place qui est réservée au Seigneur Jésus. Le Seigneur n'est-il qu'un symbole? Est-il en charge des commandes? Ou n'est-il que pour aider les autres à réaliser leurs projets? Toutes nos activités spirituelles, que ce soit l'acte le plus simple du chrétien individuel ou les actions coûteuses d'une dénomination entière, peuvent être testées en répondant à cette simple question. Le Seigneur Jésus est-il le Seigneur de cette action? Point d'interrogation. De la réponse que nous apporterons à cette question dépendra ce qui sera manifesté au grand jour du jugement. Nous verrons alors si nous aurons construit avec du bois, du foin, de la paille, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Alors que devons-nous faire? Et termine là-dessus. Chacun de nous doit décider. Nous avons au moins trois réactions possibles. L'une serait de nous lever dans un mouvement d'indignation, choqué, et de m'accuser de tenir un discours irresponsable. La deuxième réaction serait de m'approuver, d'une manière générale, mais de tirer réconfort du fait qu'il y a même quelques explications et que faisant partie de ces exceptions. La troisième réaction serait de nous incliner, de nous humilier et de confesser que nous avons attristé le Saint-Esprit et déshonoré notre Seigneur en ne lui accordant pas la place que son Père lui a accordée en tant que tête, chef et Seigneur de l'Église. Si nous adoptons la première et la deuxième réaction, nous ne ferons que confirmer le mal. Mais si nous adoptons la troisième, et si nous allons jusqu'au bout de celle-ci, de ce qu'elle implique, nous pourrons encore nous écarter la malédiction. La décision nous appartient. Vous voulez que je prêche des sermons comme ça? Il n'avait pas peur, Tozer. Très radical. Et il parle même de malédiction. Donc c'est très fort. Il dit qu'on s'attire la malédiction. Et c'est vrai que si on dit que le Seigneur est Seigneur, un Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les décisions, il est en autorité. Et si on ne le laisse pas prendre l'autorité qui lui est due dans nos vies, dans nos églises, dans nos rencontres, bien c'est de l'hypocrisie. Et on se voile à soi-même. Et c'est très difficile d'en sortir. Les psychologues, d'ailleurs, disent que le déni empêche de voir les choses en face. Et c'est ce qui se passe quand nous sommes dans cette situation. Donc il vaut mieux avoir des gens comme ça, des prophètes, vous voyez, prophètes du XXe siècle, qui, comme Jérémie, dans son temps, bien disait, attention, vous allez droit dans le mur. Attention, même vous, Église évangélique, vous êtes en train de vous fourvoyer. Et c'est ce qu'il disait. Et lui avait vraiment une communion profonde qui permettait d'inspirer tous ceux qui, comme nous aujourd'hui, peuvent encore être au bénéfice de son témoignage. Alors, je voudrais juste terminer, et on va, je pense, adopter cette troisième voie pour que le Seigneur puisse être en autorité et qu'il puisse vraiment être le chef de l'Église. Vous dire que je peux me réjouir, en tout cas, de voir que cette Église a pris le bon chemin. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de progrès à faire. Mais nous avons depuis quelques années effectivement essayé de réformer les choses, que ce soit dans tous les domaines, la louange, la jeunesse, les cultes, etc. Et nous devons continuer à rester dans cette réformation de nos voies, ne pas s'encrouter dans des habitudes. Il y a des bonnes habitudes, c'est-à-dire l'ordre nécessite certaines habitudes, mais pas l'habitude de faire la même chose, mais de laisser la place au Seigneur. Et c'est pourquoi, je ne le redis pas tous les cultes, mais sentez-vous libre. Ce n'est pas moi, en tant que président du culte, qui vous interdira de dire quelque chose que le Seigneur va vous dire. Parce que là, ce serait un autre message, mais Corinthiens 12. Vous connaissez un Corinthiens 12? Vous connaissez un Corinthiens 13? Ça parle de quoi? Voilà. Et un Corinthiens 12, ça parle de quoi? Des... Et un de Corinthiens 14, des dons spirituels. Et donc, ça fait quoi? Les dons, et au milieu, l'amour, ça fait quoi? Ça fait un sandwich. Un sandwich spirituel, voyez-vous? C'est facile. Le sandwich spirituel, c'est 1 Corinthiens 12, 13, 14. Et l'amour est au milieu. Hein, c'est le plus grand des dons, c'est l'amour. Mais les dons, tous les autres dons sont importants. Donc, rappelez-vous du sandwich spirituel. 1 Corinthiens 12, 13, 14. 12 et 14. Le 1 Corinthiens 12, c'est les dons, comment on doit exprimer les dons de manière personnelle. Et 1 Corinthiens 14, c'est comment on doit les exprimer dans l'Église. Donc il y a une manière personnelle et une manière d'Église. Donc tout cela, c'est expliqué dans l'Écriture. Mais encore faut-il que les chrétiens expriment les dons. Donc exprimer les dons. Et dans le grec... Moi, je ne lis pas le grec, mais on l'a décrit ainsi. Dans le grec, il est dit que Dieu, il pose sa main sur une assemblée, quand elle est réunie. Il pose sa main. Et sa main dansante, dansante, ça veut dire elle est comme ça, elle est dansante, hein, elle est au-dessus de l'assemblée, il distribue les dons. Il donne un don à Josué, il donne un don à Evelyne, il donne un don à... Isabelle, un don à... Parce que c'est lui qui décide, c'est lui qui est en autorité, vous êtes d'accord? Si nous croyons, si nous disons que Christ est en autorité sur l'Église, c'est lui qui est le chef, Ok. Donc il faut y croire. Et si nous n'avons pas cette foi, nous n'allons pas nous attendre à exprimer les dons. Ok. Donc si Christ donne un don, alors premièrement vous dites, ah oui, c'est quoi? Comment est-ce qu'il s'exprime? Ben oui, mais c'est vous qui l'exprimerez par la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous n'allez pas l'exprimer. Vous allez recevoir un don, mais vous n'allez pas le donner. Voyez. Et c'est ça qui est dommage. C'est que souvent les chrétiens reçoivent des dons, ils ne le donnent pas. Alors, ça peut être une image, vous pouvez avoir une image, vous pouvez avoir une pensée. Hein. Prenez l'exemple d'Annie Stéphane. Bon, elle n'est pas là, je ne veux pas que ses chevilles enflent. De toute façon, elle a reçu un don, donc elle exprime un don. Mais vous aussi, pouvez le faire, peut-être pas aussi bien qu'elle, parce qu'elle a ce don prophétique particulier. Mais Dieu, à chacune, distribue des dons. Et ça peut être la lecture d'un passage, voyez. Et ça casse l'habitude. Il y a une habitude d'ordre dans l'Église, ça c'est aussi nécessaire. Mais les dons doivent s'exprimer librement tout au long du culte. Donc exprimez-les. Ça peut être aussi un don pour prier pour les malades, etc. Ouais. Mais ça fait partie de cette manifestation de l'autorité de Christ au milieu de nous, quand nous laissons librement chacun exprimer les dons qu'il a reçus. Donc ça, c'est encore une chose que nous devons avancer, progresser. Nous avons réformé l'Église, la prière, et la prière centrale, on a vu que ça permettait d'apporter au Seigneur toutes les semaines les projets. Avant de décider en conseil, nous les présentons au Seigneur, nous les présentons à la prière, nous prions pour cela, parfois des semaines, parfois des mois, parfois des années, jusqu'à ce que le Seigneur donne le feu vert. Ça, c'est ici. C'est un principe qu'on a adopté pour laisser Christ en autorité sur nos décisions. On parlait de la louange, on parlait de la réélection du pasteur. Par exemple, on a adopté le fait que le pasteur titulaire est réélu tous les 3 ans. C'est-à-dire, il est soumis. Il est soumis au vote, c'est-à-dire à l'approbation. Et si le Seigneur dit non, eh bien, ça peut se manifester effectivement par pas quelque chose qui est durable, mais on doit toujours être soumis à la volonté de Dieu. Voyez-vous, tout simplement parce que nous voulons rendre gloire à Dieu et pas à la chair. Et tout ce qui rend gloire à la chair, eh bien, est mortel et ne portera aucun fruit durable pour l'éternité. Et ce que nous voulons, c'est que le Seigneur puisse vraiment, eh bien, nous aider à porter du fruit pour sa gloire et pour l'avancement de son royaume. Amen. Amen.